Il est 5h en temps universel, merci d'écouter RFI, 6h à Paris.
Gaëtan Plenet.
Et RFI Matin, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 8h en temps universel. On commence avec le journal. Bonjour à vous Alban Le Prince.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Et à la une de votre édition, ces appels à manifester aujourd'hui en Corée du Sud.
Au lendemain d'une tentative ratée d'arrêter Yoon Se-kyol, accusé de rébellion pour avoir essayé il y a un mois d'imposer la loi martiale, le mandat d'arrêt qui le vise expire lundi. Pourra-t-il être exécuté? Élément de réponse dans un instant. Aux États-Unis, le speaker de la Chambre des représentants réélu de justesse hier, le républicain Mike Johnson conserve finalement la présidence de la Chambre basse. Test réussi pour Donald Trump à 2 semaines de son retour à la Maison-Blanche. Au sommaire également, tirs de missiles, de drones, riposte israélienne, flambée de tensions entre les Houthis du Yémen et Israël ces dernières semaines. Nous allons tenter de comprendre comment la situation pourrait évoluer. Et puis alors qu'Edmundo González Urrutia compte s'installer le 10 janvier à la présidence du Venezuela. L'opposant de Nicolas Maduro débute aujourd'hui une tournée latino-américaine. Première étape, l'Argentine, où il sera reçu tout à l'heure par Javier Milei.
Des milliers de Sud-Coréens appelés à manifester aujourd'hui dans les rues de Séoul, des soutiens mais aussi des détracteurs de Yoon Se-kyol au lendemain de la tentative infructueuse d'arrêter le président déchu.
Accusé de rébellion pour avoir essayé d'imposer la loi martiale il y a un mois, les enquêteurs ont jusqu'à lundi pour exécuter le mandat d'arrêt qui le vise. Alors que faut-il attendre dans les prochains jours? Élément de réponse avec Nicolas Roca.
Après 6 heures de bras de fer et malgré 150 policiers mobilisés, les membres du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités en charge de l'affaire n'ont pas pu percer la muraille humaine qui protège le président déchu, Yoon Se-kyol. Alors que des milliers d'ultra-conservateurs sont présents devant les grilles de sa résidence et que la garde présidentielle fait preuve d'une fidélité à toute épreuve, la marge des manœuvres des enquêteurs s'est considérablement réduite. Ils peuvent tenter une nouvelle arrestation ce week-end avec des moyens encore plus importants. Celle-ci aurait lieu avant l'expiration du mandat d'arrêt ce lundi, mais le risque est de se confronter à une foule encore plus fournie que durant la semaine. Une autre option serait de demander une extension du mandat d'arrêt au-delà du 6 janvier, une manière de gagner du temps et d'affaiblir la garde présidentielle. La police a déjà annoncé qu'une enquête était ouverte pour obstruction de justice contre le chef du service de sécurité présidentielle et son adjoint. Les deux hommes sont convoqués à un interrogatoire ce samedi. Dernière possibilité, celle de voir le président par intérim, Choi Sang-mok, soutenir le mandat d'arrêt pour forcer la garde présidentielle à coopérer, mais malgré les demandes répétées des enquêteurs, il reste pour l'instant silencieux.
Nicolas Roca, et c'est donc dans un pays en pleine crise politique qu'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, est attendu lundi pour réaffirmer l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, première étape de sa probable dernière tournée diplomatique. Il se rendra également au Japon mardi, alors que Joe Biden a bloqué hier le rachat de US Steel par le géant japonais Nippon Steel, décision qui fait l'objet d'un rare consensus au sein de la classe politique américaine. Dernière étape de son voyage, la France où Anthony Blinken devrait parler selon le communiqué du département d'État de la guerre en Ukraine et des crises au Moyen-Orient.
Et aux États-Unis, une réélection qui n'était pas gagnée d'avance.
Celle de Mike Johnson au perchoir de la Chambre des représentants. Le républicain soutenu par Donald Trump garde in extremis sa place de speaker. Le scénario du psychodrame de 22 jours pour l'élire l'année dernière à la place de Kevin McCarthy a donc été évité. Le récit du correspondant de RFI, David Thompson.
Il aura finalement fallu 2 tours de vote à Mike Johnson pour être reconduit à la tête de la Chambre des représentants. Au premier tour, le speaker n'avait pas les votes suffisants. 3 républicains ont voté contre lui, 5 se sont abstenus. Or, à la Chambre, la majorité républicaine ne dispose que de 5 voix d'avance sur les démocrates. Entre-temps, Donald Trump a dû interrompre l'une de ses parties de golf pour appeler personnellement les élus récalcitrants et les convaincre, le temps d'un coup de fil, de voter pour Mike Johnson, son candidat sur lequel il compte bien s'appuyer pour mener sa politique. Ses élus de l'aile droite du parti ne lui pardonnaient pas son accord budgétaire négocié avec les démocrates pour éviter un shutdown avant Noël. Trop de dépenses publiques à leurs yeux. Alors, sitôt élu au perchoir, Mike Johnson promet des coupes budgétaires drastiques.
Dans les mois qui viennent, nous allons légiférer pour faire reculer la 4e branche totalitaire du gouvernement, connue sous le nom d'État administratif. Nous allons réduire considérablement la taille et le champ d'action du gouvernement. Nous allons rendre le pouvoir au peuple
Cette élection faisait figure de test pour Donald Trump et sa capacité à discipliner sa majorité parlementaire. Malgré un retard à l'allumage, le président élu sort finalement victorieux de cette séquence. David Thompson, Miami RFI.
Donald Trump accusé de paiement dissimulé dans l'affaire Stormy Daniels, il connaîtra sa peine vendredi prochain, le 10 janvier, c'est-à-dire 10 jours avant son retour à la Maison Blanche. Une attaque politique illégitime, dénonce le président élu, qui ne devrait cependant pas aller en prison, puisque le juge du tribunal de Manhattan a précisé ne pas être enclin à lui imposer une peine d'incarcération dans cette affaire, la seule au pénal pour le futur chef d'État américain à aller jusqu'à son terme, une première dans l'histoire américaine.
Le militaire retrouvé mort mercredi dans un Cybertruck Tesla devant l'hôtel Trump de Las Vegas n'avait aucune animosité envers le président nouvellement élu.
Dernières informations communiquées hier par les autorités américaines qui affirment qu'il souffrait de stress post-traumatique et d'autres problèmes. L'exploitation du téléphone du soldat membre des forces spéciales de l'armée américaine est toujours en cours et commence à révéler des motivations confuses d'après le FBI. Des faits qui ne sont pas liés selon la police fédérale américaine avec l'attaque à la voiture Bélier le soir du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans qui a fait 14 morts. Des victimes pour la plupart âgées de moins de 30 ans. Les deux plus jeunes avaient 18 ans, la plus âgée 63.
Au Proche-Orient maintenant, Alban, les pourparlers entre le Hamas et Israël en vue d'une trêve et de la libération des otages ont repris hier au Qatar.
C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le mouvement palestinien. Mais l'État hébreu n'a pas confirmé après une journée rude. Ce sont les mots du porte-parole de la défense civile gazaoui alors qu'une trentaine de personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. 7 personnes ont aussi été blessées dans un raid dans un camp de réfugiés de Naplouse en Cisjordanie occupé d'après les autorités palestiniennes. Parallèlement, l'armée israélienne a indiqué avoir intercepté un missile puis un drone lancé depuis le Yémen par les rebelles houthis qui disent agir en solidarité avec les Palestiniens. Franck Mermier, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Yémen.
Ils subissent des frappes israéliennes et américano-britanniques, des bombardements, principalement là où se trouve en fait leur rampe de lancement de missiles ou de drones. Mais dans le même temps, jusqu'à présent, il est très difficile pour leurs ennemis de faire plus pour l'instant. Sinon, il faudrait qu'ils changent de stratégie, qu'ils développent des bombardements beaucoup plus massifs, comme ce qui a été fait par Israël, notamment dans le cadre de sa lutte contre le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Ou alors viser des personnalités houthies, des personnalités politiques du régime des houthies. Et ça n'a pas encore été enclenché. Une autre étape pourrait être aussi d'aider l'armée yéménite légitime à avancer sur certains fronts. Certains analystes yéménites prédisent notamment une reprise des hostilités entre les houthies et l'armée loyaliste en 2025 après finalement l'échec de la trêve dans le sens où il n'y a pas eu en fait de résolution du conflit.
Franck Mermier, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Yémen.
Et toujours au Proche-Orient, mais cette fois-ci en Syrie, les ministres français et allemands des Affaires étrangères ont plaidé hier pour un transfert du pouvoir inclusif et pacifique, une réconciliation et la reconstruction.
Une déclaration après leur rencontre à Damas avec Ahmed al-Shara, le nouveau dirigeant de la Syrie que l'on connaissait jusqu'ici sous son nom de guerre, Abu Mohamed al-Jolani. Première réunion à ce niveau avec des responsables des grandes puissances occidentales un mois après la chute de Bachar al-Assad. Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock ont tout de même mis en garde les autorités en prévenant que l'Europe ne financerait pas la mise en place d'institutions islamistes dans le pays.
Edmundo González Urrutia, opposant vénézuélien qui revendique la victoire à la présidentielle et qui vit en exil en Espagne, prépare son arrivée au pouvoir.
Il a plusieurs fois promis de rentrer dans son pays pour prendre ses fonctions le 10 janvier à la place de Nicolas Maduro qui lui a promis 100 000 $ pour toute information qui permettrait de l'arrêter. En attendant, Edmundo González Urrutia est de retour en Amérique latine dès aujourd'hui pour une tournée diplomatique. Première étape, l'Argentine où il doit être reçu aujourd'hui par Javier Milei à la Casa Rosada, le palais présidentiel, alors que les tensions entre Buenos Aires et Caracas se sont accrues ces dernières semaines. Les précisions du correspondant de RFI, Théo Conscience.
Les relations entre Buenos Aires et Caracas sont à couteau tiré depuis l'arrestation au Venezuela d'un gendarme argentin le 8 décembre dernier. Arrêté alors qu'il passait la frontière avec la Colombie pour aller visiter sa compagne, Nahuel Gacho est accusé d'espionnage terroriste par le régime chaviste. Le gouvernement de Javier Milei estime que Caracas utilise le gendarme comme un otage et a déposé plainte jeudi devant la Cour pénale internationale pour détention arbitraire et disparition forcée. Quelques heures plus tard, le gouvernement vénézuélien a publié des images du gendarme censé constituer une preuve de vie. Javier Milei avait été l'un des premiers dirigeants à reconnaître Edmundo González Urrutia comme vainqueur incontestable de l'élection présidentielle vénézuélienne. En réponse, Nicolas Maduro avait expulsé les diplomates argentins présents dans le pays. Ce samedi, le président argentin réaffirmera cette position en recevant l'opposant vénézuélien qui a promis qu'il rentrerait dans son pays pour prendre ses fonctions le 10 janvier en dépit d'un mandat d'arrêt et d'une récompense de 100 000 dollars pour toute information contribuant à sa capture. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Il est 6h10 à Rabat au Maroc avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire dite des fils d'eux.
Affaire de viol depuis le mois de novembre qui vise 4 jeunes hommes dont certains sont issus des familles les plus fortunées du royaume et placés en détention provisoire dans la prison d'Oukacha à Casablanca. Le compagnon de la victime présumée est à son tour poursuivi pour violation du secret de l'enquête et de l'instruction et vient d'être incarcéré dans cette même prison. Mathias Reynal.
Il est passé d'accusateur à accusé, lui qui avait déposé plainte au début de l'affaire pour coups et blessures, affirmant avoir été violenté, empêché de rejoindre sa compagne, elle, l'élève avocate de 27 ans, emmenée dans une autre partie de la villa luxueuse où se déroulait une soirée mondaine, affirme avoir été violée par l'un des accusés. Son compagnon a depuis retiré sa plainte pour coups et blessures. Il est même dans le viseur de la justice. La faute à une note vocale dans laquelle il aurait divulgué le contenu de ses échanges avec le juge d'instruction. Dans cet audio qui a fuité, il aurait aussi proféré des insultes à l'encontre de l'une des avocates de la défense. La défense qui continue de réclamer la liberté provisoire pour ses clients et a fait appel après le rejet de sa requête par le juge d'instruction. Elle a fourni à la justice une liste de témoins. 12 ont été interrogés et tous ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de viol lors de la soirée du 2 novembre. Cette semaine, la victime présumée a fini par sortir du silence dans une longue interview accordée à un site d'information marocain. Elle y rétablit sa vérité et affirme sa détermination à aller jusqu'au bout. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
En France, une saisie de drogue exceptionnelle dans le port du Havre en Normandie.
Plus de 2 tonnes de cocaïne dissimulées dans un conteneur. Estimation du butin, plus de 130 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé hier le parquet de Paris qui précise qu'un docker de 22 ans et un chauffeur routier de 41 ans ont été mis en examen pour importation de stupéfiants, bande organisée et association de malfaiteurs. Notamment, ils encourent 30 ans de réclusion criminelle. Sur X, le ministre de l'Intérieur s'est félicité. La guerre contre le narcotrafic. Le trafic s'intensifie de jour en jour, a déclaré Bruno Retailleau.
Et puis depuis hier, sur Netflix, un grand retour après quasiment 20 ans d'absence.
Celui du film d'animation Wallace et Gromit. Ils reviennent avec la palme de la vengeance. À l'honneur, cette fois-ci, un nain de jardin doté d'intelligence artificielle et le retour d'un célèbre manchot de la saga, Constantin Jallot.
Pour commencer l'année sur une note d'humour anglais, Netflix propose les nouvelles aventures de Wallace et Gromit, les deux célèbres personnages de pâte à modeler, toujours filmés en stop motion. Wallace, l'inventeur ingénieux autant que ingénu, et son éternel partenaire Gromit le chien voient le retour dans leur vie du terrible manchot cambrioleur, reconnaissable par le gant de latex rouge qu'il porte sur la tête en guise de crête.
Bleu du ciel, c'est vous encore ?
Cette fois, le manchot s'échappe de prison pour détourner la dernière invention de Wallace.
Le nain intelligent artificiel.
Le nain intelligent artificiel est un petit robot autonome à commande vocale dont le bandit manchot va prendre le contrôle.
C'est la palme de la vengeance.
On retrouve les inventions délirantes de Wallace, les nombreux jeux de mots, ainsi qu'une fine satire sociale. Car sous couvert d'un ton léger, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, aborde les thèmes plus sérieux des risques de l'intelligence artificielle et de l'impact du progrès technologique sur nos relations.
Constantin Jallot.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban. 6h14 à Paris. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 8h en temps universel. Et à la une, vous l'entendiez dans le journal, pas de changement. Au perchoir du Congrès américain, Mike Johnson a été réélu hier, malgré l'opposition de certains élus de son propre camp républicain. Oui, mais avec le soutien du président élu Donald Trump. Alors le speaker sortant reste au micro dans la chambre basse du Congrès. On en reparle dans le prochain journal international dans 3 gros quarts d'heure. Un journal qui nous emmènera également à Homs en Syrie, où s'est rendu notre envoyé spécial Abla Jounaïdi. Homs, c'est celle que l'on a surnommée la capitale de la révolution, là où ont eu lieu les premières grandes manifestations contre le régime de Bachar al-Assad en 2011. Elles avaient été réprimées dans le sang, mais le régime est tombé le mois dernier et les habitants, y compris des déplacés, réinvestissent les places publiques. Et puis à suivre également dans RFI Matin, votre chronique Menace sur l'information. On parlera du Mali, où la chaîne Joliba TV a été suspendue par la Haute Autorité malienne de la communication. Un palier supplémentaire dans la restriction de la liberté d'expression du pays, nous dira David Bachet. Voilà pour le programme. RFI Matin, c'est jusqu'à 8h en temps universel et c'est parti. Et d'abord, on vous emmène dans la capitale verte de l'Union européenne en cette année 2025. Après Grenoble et Valence, c'est Vilnius qui a été désigné par la Commission européenne, récompensant ainsi les efforts réalisés par la capitale lituanienne pour se développer de manière plus durable. Alors, il y avait 7 critères étudiés pour départager les villes candidates, la qualité de l'air notamment, l'eau, mais aussi les déchets et l'économie circulaire, ainsi que le bruit. Et c'est donc Vilnius qui a été choisi il y a quelques semaines, une capitale de 600 000 habitants en constante croissance et qui a de grandes ambitions puisqu'elle veut devenir un lieu d'expérimentation. Un reportage de notre correspondante Marielle Vituro.
Vu du ciel, Vilnius est une ville verte. 61% du territoire est recouvert par la nature. On trouve même une forêt en plein centre-ville. Yekaterina Lavrinets, anthropologue.
Vilnius a sa couronne verte, des plantations qui entourent la ville et qui sont visibles de nombreux endroits de la ville. Au début du XXe siècle, on plantait encore des allées à Vilnius, ce qui a incité à se déplacer à pied dans la ville.
La ville a obtenu ce titre pour les efforts faits dans différents domaines comme la qualité de l'air, l'adaptation de la ville au réchauffement climatique ou la diversité biologique. Yoga Mikutiene est responsable du projet de capitale verte.
Nous cherchons à préserver la faune et la flore à divers endroits. Et notre décision de ne pas tondre tous les espaces verts, comme c'est habituel, a été très remarquée.
La municipalité a aussi réduit la largeur de certaines voies pour faire de la place aux piétons et aux vélos. Comment mieux se déplacer dans la ville est l'une des grandes préoccupations de la municipalité. Silvestras Dikčius, formateur en développement durable.
Il y a 5 ans, la ville a restreint le flux de voitures pouvant circuler dans le centre. Pour moi, ça a permis aux gens de comprendre que se rendre partout en voiture n'est pas forcément un mieux.
Plus d'une centaine de kilomètres de pistes cyclables relient désormais les différents quartiers de Vilnius, une ville très étendue. Les transports en commun sont de plus en plus écologiques. Jurga Mikutiene.
Les trolleybus sont des bus reliés par des antennes à un réseau électrique. Maintenant, nous avons des véhicules qui rechargent leurs batteries en roulant connectés au réseau. Ils peuvent être autonomes pendant un certain temps et ainsi, il n'y a aucune émission de CO2.
Néanmoins, tout n'est pas rose pour l'anthropologue Yekaterina Lavrinets.
Les surfaces dures augmentent dans la ville. De plus en plus d'espaces verts disparaissent pour faire place à de nouveaux quartiers. C'est dû au modèle économique. Les prêts immobiliers sont bon marché et la demande est là.
Durant cette année où Vilnius sera la capitale verte de l'Europe, l'accent sera mis sur la communication et la sensibilisation à l'écologie. En 2030, Vilnius a l'ambition de devenir neutre du point de vue climatique. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. C'est peut-être l'organe le plus étrange du règne animal, aussi polyvalent que complexe. On s'intéresse ce matin à la trompe de l'éléphant dans la chronique Science sur RFI. Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour.
Cet organe dit préhenseur, c'est-à-dire qu'il sert à prendre, à saisir. C'est l'un de ses nombreux usages. Il intrigue les chercheurs de par sa puissance et sa précision notamment.
Et oui, la trompe, pour un éléphant, c'est bien plus qu'un nez, une bouche, un bras, une main et des doigts. C'est un peu tout cela en même temps. Les pachydermes utilisent cet appendice préhensile pour aspirer leur nourriture, s'asperger d'eau ou de sable, mais aussi pour communiquer et pour fabriquer et manipuler des outils. Car une trompe, c'est à la fois très puissant, totalement flexible et extrêmement précis et sensible. Mais comment cet organe, composé principalement de muscles, résultat d'une fusion entre le nez et la lèvre supérieure de l'animal, sans aucun os, peut-il être aussi polyvalent et multitâche, capable de soulever des troncs d'arbres comme de saisir délicatement une brindille, de barrir comme une trompette ou de câliner son petit? De quoi susciter aussi l'intérêt des chercheurs en robotique. Alors une des clés de cette polyvalence résiderait dans les fameuses rides qui salissent la peau des éléphants, et en particulier dans les rides qui parsèment leur trompe. C'est ce que viennent de mettre en évidence une équipe de chercheurs, biophysiciens, biomécaniciens et neuroscientifiques de l'Institut Max Planck et de l'Université Humboldt de Berlin dans une étude parue dans la revue de sciences ouvertes de la Royal Society. Je cite l'un des auteurs de cette étude, le professeur Brecht. Leur trompe est l'organe de préhension le plus incroyable du monde, avec ses 150 000 faisceaux musculaires capables de saisir avec puissance, précision et aspiration des petits objets comme des charges lourdes.
Alors Caroline, quel rôle jouent ces rides, ces plis dans les performances de cet organe ?
Ces plis ou ces rides servent en quelque sorte de jointure souple, un peu comme nos coudes ou nos mains. C'est en constatant que ces rides étaient toujours à la même place chez les éléphantaux et chez les éléphants, il est courant, chez les mammifères humains compris, que les petits naissent ridés avec un peu trop de peau pour leur morphologie. Mais chez les éléphants, les chercheurs ont pu observer que ces rides apparaissaient bien avant la naissance, en même temps que la trompe elle-même, vers le 20e jour de la gestation, et se creusaient jusqu'au 150e jour d'une gestation qui dure 22 mois chez les éléphants. Les scientifiques ont pu corroborer cette découverte chez les deux espèces d'éléphants actuelles, ceux d'Asie et ceux d'Afrique, qui sont dotés de trompes légèrement différentes. Chez les éléphants d'Afrique, la trompe s'achève par un appendice en forme de deux doigts, tandis que les éléphants d'Asie n'en ont qu'un seul. Mais les éléphants d'Asie compensent en quelque sorte l'absence d'un deuxième doigt par un plus grand nombre de rides à des endroits pivots de leur trompe. Dernier détail de cette étude, les plis, les rides de la trompe des éléphants se creusent avec l'âge à droite ou à gauche, selon que les éléphants sont droitiers ou gauchers de la trompe.
Et quand l'éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en pâtissent, dit le proverbe africain. Merci Caroline Lachowski. Et comme chaque samedi sur RFI, on regarde ce qui fait la une chez nos confrères de Jeune Afrique. Catherine Potet en parle avec François Soudan, le directeur de la rédaction.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, la lutte d'influence à laquelle se livrent le Maroc et l'Algérie au Sahel. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
On peut parler d'une sorte de guerre froide entre les deux frères ennemis du Maghreb, guerre froide dont l'enjeu, nous dit Jeune Afrique, est de s'attirer les sympathies des pays de l'Alliance des États du Sahel. Alors où en est-on aujourd'hui ? Selon vous, François Soudan, l'Algérie est à la peine ?
Oui, parce qu'après avoir exercé pendant 40 ans un rôle géopolitique majeur dans la région, l'Algérie accuse un net déficit d'image, d'influence, depuis que des juntes militaires ont pris le pouvoir au Mali, au Niger, au Burkina. La diplomatie algérienne était beaucoup plus à l'aise avec les régimes civils de ces trois pays qu'avec ces officiers qu'elle ne connaissait pas et dont elle a d'ailleurs condamné les coups d'État, en particulier au Niger. Dans cette région qu'elle considère comme relevant de sa profondeur stratégique, l'approche de l'Algérie a toujours été à la fois sécuritaire, axée sur la protection des quelques 2300 km de frontières partagées avec le Mali et le Niger, approche auto-centrée et hostile à toute ingérence extérieure, qu'elle soit française hier ou russe aujourd'hui, c'est une question de doctrine, hein, quels que soient par ailleurs les bons rapports entre Moscou et Alger. Alors c'est avec le Mali, qui fut autrefois une plateforme de l'influence algérienne, que les relations sont les plus compliquées, elles sont même très conflictuelles. Le palais d'El Mouradia ne s'est toujours pas remis de la dénonciation par Bamako il y a un an des accords d'Alger qui lui a fait perdre son statut de médiateur régional. Et il y a une différence d'approche fondamentale, Catherine, entre les deux capitales concernant les groupes armés Touareg. Pour le gouvernement malien, ce sont des terroristes. Pour celui d'Alger, qui héberge d'ailleurs quelques-uns de leurs chefs, ainsi que l'imam Diko, grand opposant à la junte au pouvoir, ce sont des interlocuteurs essentiels à tout processus de paix, Catherine.
L'Algérie a la peine donc. En revanche, le Maroc a marqué des points sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, avec son projet de gazoduc atlantique.
Oui, le Maroc est dans une dynamique sahélienne qui est l'inverse de celle de l'Algérie pour plusieurs raisons. D'abord, le royaume n'a jamais condamné les coups d'État militaires. Il a toujours fait preuve d'une certaine compréhension vis-à-vis de la posture souverainiste des juntes qui rejoint quelque part le Morocco First, hein, prôné par le roi Mohamed VI. Ensuite, c'est de longue date un investisseur économique, bancaire, si je puis dire spirituel avec la formation des imams dans la région, mais aussi militaire. Les chefs des juntes militaires burkinabé, Abdourahman Tiani, Ibrahim Traoré ont effectué une partie de leur formation dans les académies du royaume. Il y avait donc une sorte de terreau fertile qui a permis au Maroc de profiter du vide laissé par l'effacement de l'Algérie en se positionnant, Catherine, sur trois offres, trois créneaux complémentaires. D'abord, proposer aux pays enclavés de l'AES via l'initiative atlantique un débouché de substitution par rapport à celui qu'offraient les ports de la CEDEAO, servir d'intermédiaire entre l'AES et les investisseurs financiers des pays du Golfe, et enfin jouer les médiateurs entre ces mêmes pays de l'AES et les pays européens, en particulier la France, comme le démontre le rôle crucial joué par le roi lui-même dans la libération le 19 décembre de 4 agents des services français détenus à Ouagadougou, Catherine.
Dernière question, François Soudan. Dans un peu plus de 2 semaines, c'est l'administration Trump qui sera aux affaires à Washington. Et là encore, le Maroc et l'Algérie ne sont pas sur un pied d'égalité. Ils ont des raisons différentes de s'en inquiéter ou de s'en réjouir.
Oui, tout à fait. En quelques mots, Catherine, disons qu'on a quelques raisons de s'en réjouir côté marocain, puisque c'est sous la précédente administration Trump que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, et quelques raisons de s'en inquiéter à Alger, surtout si Marco Rubio est confirmé au poste de secrétaire d'État. Le sénateur de Floride s'est dans un passé récent distingué par des positions très critiques à l'encontre du régime algérien. Il avait notamment, Catherine, demandé qu'il soit sanctionné pour ses achats massifs d'armes russes.
Merci François Soudan. Cet article sur le Maroc et l'Algérie est à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et vous, Catherine Potet, on vous retrouve dans la prochaine demi-heure pour la revue de presse africaine. Et bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour.
Et bonne année à vous, première chronique gaming de 2025. Et vous nous parlez ce matin d'un sujet qui agite le monde du jeu vidéo depuis plusieurs années maintenant, la dématérialisation.
Fini les boîtes en plastique, les manuels papier, les allers-retours au magasin. Aujourd'hui, on télécharge, on installe et on joue. Mais quelles sont les réelles conséquences de cette transition pour les joueurs, les éditeurs et l'industrie? C'est ce que nous allons voir ensemble. Avant, pour acheter un jeu vidéo, il fallait se déplacer physiquement. Aujourd'hui, les plateformes de téléchargement comme Steam, PlayStation Store, Xbox Live ou encore Epic Games Store sont devenues la norme. On achète une licence numérique, un droit d'accès au jeu, que l'on télécharge sur sa console ou son PC. Et ce changement a eu des effets considérables.
Allez, on va d'abord voir le verre à moitié plein, les côtés positifs pour les joueurs.
Oui, la dématérialisation offre bien des avantages, plus besoin de se déplacer. Les jeux sont disponibles instantanément, souvent dès leur sortie. On peut également profiter de promotions régulières et accéder à un catalogue immense, parfois à des prix plus attractifs qu'en version physique. De plus, le dématérialisé facilite l'accès à des jeux indépendants ou plus anciens qui n'auraient pas forcément eu droit à une distribution physique. Cependant, cette transition n'est pas sans inconvénient. L'un des points les plus critiqués est la perte de la propriété physique. On ne possède plus un objet tangible, mais une simple licence d'utilisation. Et ça soulève aussi des questions sur la revente, le prêt ou encore la collection des jeux. Aussi, la question du prix est plus nuancée qu'il n'y paraît, puisque si certaines promotions sont intéressantes, les prix de lancement des jeux dématérialisés sont souvent équivalents, voire supérieurs à ceux des versions physiques.
Et pourquoi les éditeurs font-ils le choix de la dématérialisation, Jennifer? Quels avantages pour eux?
Pour les éditeurs, la dématérialisation représente une opportunité de réduire considérablement les coûts de production, de distribution et de stockage. Plus besoin donc d'imprimer des manuels, de fabriquer des boîtes ou de gérer un réseau de distribution physique. Ça permet également un contrôle accru sur la distribution et la lutte contre le marché de l'occasion. Ils peuvent ainsi proposer des offres plus ciblées, dont par exemple des DLC, des extensions, et des mises à jour plus facilement. La dématérialisation est une tendance croissante et il est peu probable qu'elle disparaisse. Cependant, il est important de trouver un équilibre entre les avantages du numérique et les attentes des joueurs. La question de la propriété, de la revente et de la collection des jeux reste un enjeu majeur. Et en plus, il est crucial d'assurer un accès équitable aux jeux pour tous les joueurs, y compris ceux qui n'ont pas accès à une connexion Internet haut débit.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que l'avenir du jeu vidéo réside peut-être dans un modèle hybride ?
Pourquoi pas, en combinant les atouts du physique et du numérique afin de satisfaire tous les types de joueurs. C'est déjà en train de se produire avec des jeux qui proposent des éditions collector, contenant non seulement une version physique du jeu, mais aussi des artbooks avec des images d'illustration du jeu, des figurines, un CD contenant de la musique du jeu, bref, tout ça pour quelques centaines d'euros.
Merci Jennifer Lufaux pour la première chronique gaming de l'année 2025. Et merci à vous d'être fidèles à RFI, RFI Matin. On est ensemble jusqu'à 9h, heure de Paris, le journal consacré à l'actualité africaine. C'est dans un petit peu plus d'une minute. À tout de suite sur RFI.
Carrefour du Maghreb, avec Juliette Rangeval.
Le Maroc face à la crise de l'eau. 6 années de sécheresse, des robinets à sec en ville, un modèle agricole très gourmand dans les campagnes. L'eau est plus que jamais une priorité politique pour le royaume qui multiplie les projets usines de dessalement et stations d'épuration des eaux usées.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 26 janvier sur APAfrique, APAfrique.rfi.fr.